Le festival Paris l'été nous donne l'occasion jusqu'à la fin de cette semaine de revoir une pièce importante dans l'œuvre du chorégraphe Christian Rizzo d'après une histoire vraie datant de 2013 et formant triptyque avec Ad Noctum et le syndrome Ayan, interroge d'après une histoire vraie sur la place et sur les traces de la danse populaire, sur l'importance de la musique, sur les souvenirs intimes du chorégraphe qui finalement vont former récit. Christian Rizzo est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Chorégraphe et directeur de l'Institut chorégraphique international de Montpellier, dont on dira un mot aussi tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que, d'après une histoire vraie, pour 8 danseurs et 2 musiciens en live, c'est avant tout l'histoire d'un choc émotionnel que vous avez vécu il y a plusieurs années à Istanbul et dont vous dites qu'il vibre encore, qu'il résonne encore en vous ?
Oui, je crois que c'est surtout, en fait, c'est pas tant le souvenir en tant que tel, mais c'est le chemin du retour vers le souvenir, en fait, je dirais, puisque, en effet, il y a eu cette chose, cette infime chose, que je pensais être infime, en fait, qui est venue se loger, voilà, il y a plus de, maintenant 6 ans, plus 10 ans, donc 16 ans, à l'occasion d'un voyage en Istanbul, où j'avais vu, en effet, un groupe de mecs, en fait, tout simplement, danser pendant peut-être 2-3 minutes, voilà, ensemble.
De manière impromptue.
Oui, en fait, c'était le final, en fait, d'un spectacle de danse contemporaine. Et en fait, ce qui m'a plutôt interrogé à ce moment-là, c'est que moi, chorégraphe, évoluant dans la sphère, en fait, de danse contemporaine, je m'étais jamais posé la question de la place du folklore véritablement dans ma pratique ou dans mon histoire. Et il se trouve que je dis toujours, bon, c'est vrai que ce spectacle que je voyais ne m'intéressait pas beaucoup. Et ces quelques minutes qui sont arrivées comme ça. En fait, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, on est fait d'une double histoire, en fait, une histoire d'auteur et une histoire d'anonyme, et que dans la sphère dans laquelle on est, on privilégie constamment, en effet, l'histoire des auteurs, alors que je sens vraiment intimement que je suis construit d'une double, cette double histoire, quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est ça, en fait, qui a d'un coup redéclenché quelque chose, en fait, que j'ai voulu explorer.
Il reste de ça, du coup, peut-être plus une énergie qu'une matière, c'est ça, c'est une recherche.
Je dirais que il était absolument évident qu'on n'allait pas essayer de réapprendre ces danses, puisqu'en plus, quand j'ai entamé ce travail-là, le souvenir datait d'il y a déjà 10 ans. Donc, ouais. De fait, il était entièrement faux. Il avait été, retravaillé. J'avais rajouté des trucs dessus. Donc, finalement, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui ferait folklore pour nous aujourd'hui avec cette équipe et dans un théâtre?
Et alors, 10 ans plus 6 ans maintenant, votre regard sur ce moment-là et sur ce que vous en avez fait il y a 6 ans? Il a changé, il a évolué.
Alors, d'abord, ça s'est inscrit par une pièce, mais ça s'est inscrit, je crois, tout simplement aussi dans le rapport que j'ai avec le travail, de façon beaucoup plus large, et de m'apercevoir que cette question de la question des pratiques anonymes, en fait, ces fameuses pratiques que moi j'appelle anonymes parce qu'elles sont pas des pratiques d'auteur, finalement m'a ramené à une chose qui m'intéresse toujours depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à nommer, qui était ce rapport aussi entre art et artisanat, en fait, puisque venant des arts visuels, en fait.
Oui, vous avez toujours été styliste.
Et cette dichotomie, en fait, entre une pratique d'art et une pratique d'artisanat. Et finalement, ce qui m'intéresse derrière, c'est quoi ? C'est l'appropriation du geste et la transmission du geste et sa mémoire. Et en quoi cette répétition du geste ouvre potentiellement, je dirais, des visions.
En fait. Ça traverse toute votre œuvre, hein, Christian Rizzo, tout comme l'arrivée et le tissage de la danse contemporaine dans ce genre de moments, de souvenirs qui forment un récit.
Je pense qu'il faut toujours... Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin, en tout cas, d'un démarrage qui est toujours intime, en fait, mais qui ne doit pas être personnel. Donc, c'est toujours un peu bizarre, ou personnel qui ne doit pas devenir intime. Enfin, il y a une espèce d'élasticité que j'essaye d'entretenir entre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se mettre au travail pour produire une forme qu'on veut partager avec des anonymes.
Ouais.
Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y a des fondations, en fait, qui doivent être assez fortes pour soutenir l'énergie de démarrage d'un projet.
Un extrait de ce spectacle d'après une histoire vraie. Donc, 8 danseurs, 2 musiciens. Vous avez été, je disais tout à l'heure, styliste. Vous avez été musicien aussi.
Musicien, c'est un grand mot. Ça, hein.
Vous avez quand même
crié dans
parcours.
Des micros ouais. À une période post-punk.
De punk à Toulouse, c'est ça ?
À Toulouse, en effet.
La présence de ces rythmes qui sont fabriqués au moment sur scène, ça c'est aussi quelque chose qui a marqué au moment, en 2013, de la création de d'Après une histoire vraie. C'était pour vous quelque chose aussi d'important et qui ramenait vers l'artisanat, vers une certaine pratique artisanale ?
Ben, en tout cas, c'était nécessaire, en fait. Je voulais aussi rétablir un rapport assez direct aussi entre la production de danse et la production de son, de musique, comme une seule et même chose, en fait. Donc, toute la création s'est déroulée, voilà, avec les danseurs et avec les compositeurs. Et tout ça a jailli en même temps, en fait. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'idées préconçues de ce que pouvait être la musique ou d'idées préconçues de ce que pouvait être la danse. Mais ce que je voulais, c'était réunir une équipe essentiellement masculine, parce que ça c'est quand même important dans le projet, et de se mettre au travail voilà, sur des façons de dialoguer, voilà, donc de façons de dialoguer par la musique, par la danse, entre la musique et la danse, avec le silence, la musique seule, c'est-à-dire toutes les combinatoires possibles en fait, mais comme un dialogue pour constituer, je dirais, il y a un récit en fait derrière tout ça, qui est comment un groupe devient une communauté.
C'est ça, mais parce que, alors pourquoi la masculinité est si importante dans cette pièce ? Vous dites que vous voulez interroger la notion de communauté, ça vous en donne la possibilité de travailler avec des artistes et des danseurs hommes ?
Absolument, parce qu'en fait, je me suis aperçu d'une chose très très bête, c'est que juste avant de faire cette création, je passais beaucoup de temps avec des groupes exclusivement féminins, ouais. Et je trouvais que la parole était quand même beaucoup plus libérée dans ces groupes entre femmes qu'entre hommes. Je trouvais que, tout simplement, entre hommes, les discussions s'arrêtaient toujours à des endroits un peu précis, on rentrait pas dans des choses beaucoup plus intimes, et je crois que derrière ça, j'avais envie de constituer un groupe d'hommes qui pouvaient tenter de voir comment on pouvait ouvrir l'éventail de relations entre hommes, qui est très large et dont je trouve on se sert très peu.
Ouais, le caractère méditerranéen aussi de ces pas, on le sent pas trop dans la musique, hein, qu'on vient d'entendre, mais dans les mouvements, il y a quelque chose de méditerranéen et dans la genèse aussi du projet, puisque vous l'avez expliqué tout à l'heure.
Dans les danseurs, surtout.
Voilà. Et puis dans les danseurs, évidemment.
Parce qu'en fait, au tout démarrage, en fait. Comme le projet était né de ce souvenir d'Istanbul, je m'étais dit, ben en fait, je vais faire le tour du bassin méditerranéen, je vais partir par l'Espagne, je vais faire tout le tour du bassin méditerranéen et je vais m'arrêter donc à Istanbul, puisque c'est la porte de l'Europe. Et je savais que je voulais faire cette chose, en fait, qui avait été pensée, en tout cas désirée, comme un projet un peu extra-européen au démarrage. Donc, il se trouve que je n'ai pas eu du tout l'argent pour faire tout ce trip. Donc, finalement, j'ai ramené à moi aussi, voilà, des danseurs qui venaient, en effet, d'Israël, de Turquie, du Maroc, du Portugal, d'origine italienne, d'Espagne, et c'est ça aussi en fait, c'est-à-dire que d'un coup c'est eux qui ont nourri, voilà, par cette migration géographique, la danse. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait. On parle beaucoup d'histoire des danses, et je pense que c'est là où intervient la question des auteurs. Moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est la géographie des pratiques en fait. Donc c'était ça aussi, de voir comment en fait par migration il y avait finalement peut-être une espèce d'essence comme ça d'une danse très simple qui était taper au sol, se tenir par les mains, faire une ronde, des choses extrêmement finalement basiques, mais qu'il était hors de question de faire une danse qui allait prendre des références dans des pays. C'était plutôt de considérer que notre territoire était le plateau. Donc de voir comment cette danse et cette musique pouvaient éclore par le plateau et par ce groupe.
Votre territoire, c'est le plateau. La notion du souvenir, la question qui est importante pour vous du souvenir, hein, on l'a dit tout à l'heure, avec ce 10 plus 6, c'était déjà un appel à ça. Le rapport à la musique, parfois tribal dans ses rythmes, ça on l'a aussi entendu dans le petit extrait de cette pièce d'Après une histoire vraie. Chacune des pièces du triptyque dont fait partie cette pièce interroge un peu les mêmes ressorts. Christian Rizzo, finalement, joue sur les mêmes mécanismes.
Oui, ça joue sur. Ça joue pas sur les mêmes mécanismes, parce que finalement, en tout cas, il y a une chose qui traverse le tout, c'est toujours ce rapport entre danse d'auteur et danse anonyme. Donc après, j'ai voulu les séparer, en effet, avec la première pièce, donc d'Après une histoire vraie, sur l'apport ou le rapport. J'aime bien ce double mot sur le folklore. Ensuite, sur les danses de couple avec Ad Noctum. Et dans la dernière, le syndrome Yann, qui fait référence à Yann Curtis de Joy Division, qui était ce moment très précis du souvenir de ma première sortie en club à Londres en 79.
Il y a un rapport au clubbing important. Je disais que vous étiez musicien tout à l'heure. Vous avez vraiment été musicien. Il n'y a pas eu qu'un rapport de consommateur de musique. Vous avez aussi produit.
Oui, oui. Enfin, on va évoquer des groupes, mais c'est vrai que je dirais ma vraie scène musicale finalement a été quand même celle découverte dans le club.
Est-ce que votre vraie scène, c'est pas aussi celle de la danse finalement, de la scène chorégraphique?
Non, je crois pas. Étonnamment, je pense que ça vient vraiment de... Enfin, je pense que je fais aussi ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai vu des concerts et pas des spectacles de danse, en fait. Donc, je continue, je crois, à faire aussi des pièces comme si je faisais des albums.
Tiens, on va vous faire un cadeau, Christian Rizzo, pour vous remercier d'être venu. On va écouter The Residents, groupe éminemment important pour vous. Star Woman, The Residents. Vous dites, alors c'est un groupe dont vous êtes absolument fan, hein, Christian Rizzo. Vous dites par ailleurs avoir pour modèle le Bauhaus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se rapprocher là, avec The Residents?
Absolument. Ben absolument, c'est-à-dire que c'est ce travail à la fois sur le fond et la forme comme une seule et même chose, quoi. Donc et ce rapport aussi à une époque industrielle, comment toutes ces choses-là finalement peuvent être des sources aussi d'inspiration. Mais je dirais, pour revenir sur les Residents, c'est vraiment le jour où j'ai vu les Residents sur scène, j'ai compris que je voulais être au plateau.
Vous avez compris quoi? Que vous vouliez être musicien, styliste, parce qu'il y a aussi un rapport important.
Non, j'ai compris que ou il y avait besoin de se définir. C'est ça qui était super important, c'est que pendant très longtemps, enfin, on savait pas qui étaient les Residents. On le sait toujours pas. On le sait un peu plus puisque un des fondateurs quand même est décédé cette année. Mais on a même imaginé qu'à un moment donné, c'était les Beatles, que ça a été des groupes, enfin des potentiellement des gens des Rolling Stones qui avaient rejoint. Enfin, on a tout inventé sur ces trucs-là. Et ce qui était très beau, c'est que, enfin, en tout cas pour moi, sur les Residents, c'est qu'il y avait ce rapport à la plasticité, au théâtre, à une forme de danse, à la musique. Tout ça était une seule et même chose, comme un art total. Et surtout, c'est qu'on ne savait pas qui c'était.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas non plus là l'artiste, voilà. Finalement. C'est,
donc la signature était vraiment une signature. C'est ça que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire que ce n'était pas la personne qui était en avant, c'était leur talent. Et ça, moi, c'est une chose que je trouve, surtout aujourd'hui où on met énormément les personnes en avant, je trouve que de se rappeler que le talent peut passer avant les personnes, je trouve que c'est quand même assez génial.
Votre dernière pièce, Christian Rizzo, c'est une maison créée à Annecy cette année où se joue peut-être un basculement. Alors vous allez confirmer ou pas, mais un basculement dans votre œuvre, on peut dire ça comme ça. Là, vous avez un dispositif scénique un peu plus conséquent qu'habituellement parce que on l'a évoqué un peu d'après une histoire vraie. Le plateau est très simple,
très simple.
Un cube pour les musiciens et puis très peu d'accessoires. Là, il y a un dispositif scénique, une maison finalement qui se construit, se déconstruit. Maison lumineuse, la matière de cette maison, c'est quoi, Christian Rizzo?
La matière, ça va être encore une histoire de souvenirs, mais pas vraiment de souvenirs en fait. C'est plutôt la question de la mémoire plutôt et de la transmission en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que pour moi une maison finalement qui est un espace où on convoque sa mémoire pour qu'elle puisse être transmise?
C'est la matière du mouvement des corps qui l'habitent aussi, non, cette maison?
Oui, c'est les corps qui l'habitent, mais aussi, enfin, comment un espace est peuplé et dépeuplé par, bien sûr, les présences visibles, mais surtout par celles qui ne sont pas visibles.
Cette scénographie toujours épurée, parce que même s'il y a un dispositif sur une maison, c'est quand même encore très épuré. Là, on voit la patte du styliste que... Peut-être vous n'étiez pas, vous êtes resté styliste, on pourrait dire ça comme ça.
Je dirais plutôt artiste visuel, puisque je commence toujours par là en fait. C'est-à-dire avant même de savoir qu'est-ce qui va se passer, j'ai besoin de savoir où est-ce que ça va se passer. Donc j'ai besoin de concevoir en fait un espace pour convoquer déjà des gens. Donc j'ai besoin, en effet, avant de commencer à savoir quels vont être les mouvements potentiels d'un projet, j'ai besoin de savoir dans quoi ils vont apparaître et dans quoi ils vont disparaître. Donc, mais je dirais, pour moi, c'est presque un rapport à l'architecture, c'est-à-dire que On sait que là, on est dans un studio, il y a une porte d'entrée, il n'y en a qu'une seule. Donc, du coup, automatiquement, les mouvements qui vont être induits par cette chose-là. Donc, même si on ne connaît pas les mouvements qu'on va produire, finalement, on sait où ils vont avoir lieu et c'est ça qui va les déterminer. Donc, voilà, j'ai toujours ce rapport, en tout cas, parce que je ne veux pas prévoir la danse avant même de travailler avec les danseurs. Donc, j'ai besoin de prévoir dans quel espace ils vont évoluer.
Et c'est sur le plateau qu'on travaille, évidemment. C'est un nouveau cycle que vous abordez, du coup, avec une maison, là, dans votre travail. D'autres sujets de réflexion, peut-être. Il y a le rapport aux souvenirs, il y a tout ce rapport au travail, à la façon de travailler, à la façon de faire. Mais dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez, raconter.
Je sens qu'il y a une question qui me taraude de plus en plus, qui est le rapport entre l'organique et le numérique. Donc voilà, donc ce rapport comme ça entre qu'est-ce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui qui se numérise, qui s'électronise à tout va, qui va extrêmement plus vite que nos propres possibilités en fait de réaction. Donc je me pose la question de où en est l'organique en fait et quelle est peut-être la relation potentielle qui va jaillir quand l'organique et le numérique se rencontreront pour faire une seule et même chose. Mais c'est plus des systèmes de pensée pour moi que de vraiment aller bidouiller dans les gènes et dans la puce électronique.
Chorégraphier, c'est quoi? Tiens, on va écouter quelqu'un qui vous est cher, Anna Teresa de Kersmaeker, qui répond à cette question. Qu'est-ce que c'est, chorégraphier?
Chorégraphier, c'est quoi? Incarner une abstraction, c'est organiser des mouvements dans le temps et dans l'espace, c'est défier la gravité, c'est sauter et tourner, c'est peut-être la définition la dernière, la plus grande, éloquente. C'est quelque part célébrer notre humanité. Et mes partenaires sont la musique, les danseurs et la nature. Voilà, c'est quelque part le compte-rendu de 40 ans de métier.
Teresa de Kersmaeker, dans la grande table sur France Culture, c'était le 10 avril dernier. Vous souscrivez à tout ce qu'on vient d'entendre ou il y a des petites nuances dans l'approche?
Non, je suis assez d'accord. Après, je pense que on peut célébrer aussi l'humanité par plein de choses autres que la chorégraphie. Pour moi,
elle a pas dit que c'était que tout passait par la chorégraphie.
Non. Mais je trouvais que c'était assez beau en même temps de dire en effet de célébrer. Moi, je continue à penser, mais je pense que Anne-Thérèse pourrait le dire aussi clairement. Je pense que sa première parole quand elle dit c'est ce rapport avec l'abstraction. En fait, j'ai oublié la phrase exacte, mais je crois que c'est ça, c'est de tenter en fait d'être dans ce rapport d'abstraction et d'humanité, voilà, de voir comment en fait on peut inscrire un corps dans un espace et dans le temps pour aussi produire de la pensée qui est du mouvement, et ce mouvement est de la pensée aussi.
Une pensée qu'on inscrit à l'échelle globale. Vous vous lancez à la conquête du monde, Christian Rizzo, avec le Centre chorégraphique national de Montpellier qu'on appelle maintenant l'Institut chorégraphique international.
En fait, ça s'appelle Institut chorégraphique international parce que c'est surtout, ça permet de faire un acronyme qui dit ICI.
ICI. Ouais.
Et pour moi, c'était une chose qui est très importante, c'est de rappeler constamment que, pour moi, j'aime bien l'idée que ce soit des pratiques qui fabriquent des territoires et non le contraire. Donc, c'était vraiment de se dire, de partout où on est, c'est ICI. Et on est ici par nos pratiques, et donc par nos pratiques, on fabrique des territoires. Donc, de définir aussi des cartographies avec des frontières. Et de les définir volontairement pour être sûr qu'on peut les rendre flous.
Vous voulez sortir des politiques publiques, culturelles, des institutions, ça vous angoisse ce genre de cadre-là?
Non, pas du tout, puisque j'ai postulé pour être à la direction d'un lieu, donc je crois au contraire que, particulièrement aujourd'hui, où on sent que tout ça peut être affaibli, je suis persuadé que des institutions dirigées par des artistes ont beaucoup à faire aussi pour produire des visions et de redonner comme ça, enfin de continuer à donner, parce que c'est pas redonner, c'est pas tomber, c'est de donner une dynamique en fait justement à des politiques culturelles. Je trouve que de réinscrire l'artiste dans la réflexion de la politique culturelle est une question éminemment importante, parce que sinon on va avoir une culture sans art, une culture sans artiste, ce qui a déjà commencer.
Et sans artisans. Merci beaucoup, Christian Rizzo.
Merci.
D'être venu ce matin. Votre pièce D'après une histoire vraie est à voir au festival Paris l'été, visible jusqu'à samedi. C'est au lycée Jacques Descours, hein, c'est ça, dans le 9e arrondissement, à 22h, jusqu'à samedi. Merci à vous.